Alors, un bon matin, vous tous, un bon dimanche, et toujours une joie, n'est-ce pas, de se retrouver avec le peuple de Dieu, malgré nos défauts, malgré nos différences, comme quelqu'un a dit toujours, le peuple de Dieu se sent le meilleur des peuples, pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de qui nous avons, le Seigneur Jésus en nous, avec nous, et quelle grâce, justement, de partenir à la grande famille de Dieu et de s'aimer les uns les autres, comme nous avons entendu. Et ce matin, nous allons voir maintenant la deuxième dans cette série de messages que nous avons commencé dimanche dernier. J'aime l'Église, donc, il y a quelque chose qui suit. Et dimanche dernier, nous avons vu j'aime l'Église, donc j'aime mon frère, j'aime ma sœur, et nous avons parlé justement de cette église, comme Denis a mentionné dans sa prière, qui n'est pas le beau bâtiment que nous avons, que nous aimons, mais ce sont les pierres vivantes des individus qui sont dans le corps de Christ, que Christ a aimé. Et si je dis que j'aime Jésus, je dois aussi aimer ce que Jésus aime. Et Jésus aime son église, il aime les frères, il aime les sœurs. Alors, moi aussi, je dois aimer mes frères et mes sœurs. Mais ce matin, nous allons regarder le deuxième dans cette série de messages. J'aime l'Église, donc j'aime l'unité. Et nous allons regarder maintenant l'Église dans sa collectivité. On va parler ce matin du corps de Christ. Les membres de l'Église qui forment le corps de Jésus. Et vous savez, on dit, mais c'est dit aussi dans la parole de Dieu, et surtout pour les hommes, que jamais personne n'a haï son propre corps. Les hommes, dans Éphésiens, dans le contexte, c'est de les hommes qui devraient aimer leur femme, quand Christ a aimé l'Église. Et parce que Christ aime l'Église, son corps, il la nourrit et en prend soin. Et les hommes sont exhortés aussi d'aimer leur femme comme leur propre corps, parce que jamais personne n'a haï son propre corps. Et ça, c'est tout à fait vrai pour nous les hommes. Vous pouvez demander à nos femmes. Hein? Quand vous voyez un homme qui est malade, c'est pas drôle. Hein? C'est pas drôle. Ah, c'est la fin du monde. Un petit rhume, un petit grippe. Aïe, 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 il est en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'il aime son corps. Et on le dorlote, puis là, on va être traité aux petits soins, puis nos épouses qui sont bien plus pratiques. Prends deux pilules, puis ah ouais, let's go. Mais nous, on aime ça, vraiment. Ce n'est pas parce qu'on est, nous aimons notre corps. Et si on dit que les hommes aiment le corps, combien plus Jésus doit aimer aussi son propre corps? Et la parole de Dieu nous dit justement que Jésus aime son propre corps et il en prend soin, il la chérit, il la nourrit, comme Christ le fait pour l'Église. Et si j'aime Jésus, je reviens aussi à ce que j'ai dit au début, je dois aussi aimer ce que Jésus aime. Jésus aime son corps, alors moi aussi je devrais aimer le corps de Jésus. Le corps dans sa collectivité est le corps qui est caractérisé par l'unité. Et ça c'est notre thème pour ce matin. Moi j'aime l'unité parce que moi j'aime Jésus. Et vous savez, la Bible nous donne plusieurs textes qui parlent de cette notion que le corps de Christ est un. Et je vous donne quelques versets ici. Vous avez, dans un premier temps, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Quelque chose d'extraordinaire. Plusieurs membres dans le corps de Christ, mais malgré tout cela, devant Dieu, nous sommes un seul corps, unis avec Jésus-Christ et unis aussi les uns aux autres dans ce corps. Nous avons tous en effet été baptisés en Corinthiens 12, 13 dans un seul esprit pour former encore un seul corps. Et il n'y a plus ni juif ni grec. Ça, c'est ce que le Nouveau Testament nous enseigne, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait justement cette distinction très, 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 très nette entre le peuple élu de Dieu, les Juifs, Israël, et le reste du monde qu'on appelait les païens. Et quand Jésus est venu et il est mort sur la croix, la Bible nous dit qu'il a renversé ce mur de séparation. Et des deux entités, les juifs et les non-juifs, il n'en a fait qu'un seul, qui est justement le corps de Christ. Alors, dans ce corps-là, il n'y a plus cette distinction maintenant, ni plus juif, ni grec, ni esclave, ni libre, il n'y a ni plus homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Alors, les barrières sont tombées. Les positions sociales sont tombées. Ces distinctions ne sont plus là. Dans le corps de Christ, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et ça devrait alors nous pousser, vu que la Bible en parle si souvent, à dire que c'est quelque chose qui est précieux devant Dieu, ça devrait aussi être précieux pour moi, cette unité qui est dans le corps de Christ. Et comment est-ce qu'on sait que cela existe dans une église comme ici ce matin? Comment est-ce que nous allons savoir que le corps ici de Christ, malgré le fait que nous sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, cette unité-là est traduite de façon pratique par justement quand il y a la paix dans l'assemblée, quand il y a l'harmonie qui règne dans l'assemblée, alors ce sont des évidences qu'il y a l'unité dans l'assemblée. Nous sommes en train de vivre de façon pratique ce que la Bible nous dit justement intellectuellement, que nous pouvons savoir dans la tête. C'est un fait, mais maintenant, de le mettre en pratique et de le vivre, justement, du jour au jour, les uns avec les autres, et avoir dans cette église ici la paix et l'harmonie qui règne dans l'église, l'unité qui est là. Mais vous savez, quand quelqu'un a bien dit, où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Et c'est vrai que, à cause, comme je dis, dimanche dernier, à cause de notre vieille nature, notre nature pécheresse, même si c'est l'idéal pour Dieu, cette belle harmonie, cette paix qui existe, qui devrait exister dans tous les rassemblements, dans toutes les églises, il y a des choses, par exemple, qui cherchent justement à dérailler le beau plan de Dieu. Et je vais vous en citer trois, il peut y en avoir d'autres. Ça existait dans le passé et nous ne sommes pas non plus à l'abri de ces choses. Et ça, c'est un récit qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, pas besoin d'y tourner. Mais au lieu de focaliser sur cette unité, cette collectivité et de vouloir le bien de tout le groupe, il y a des disciples de Jésus qui ont focalisé sur eux-mêmes. Et il y avait ce que j'ai appelé l'ambition personnelle. Au lieu d'être maintenant focalisé sur qu'est-ce qui est bien pour le camp de Christ, la collectivité, je focalise sur moi-même, qu'est-ce qui est bien pour moi. Et là, dans ce récit, vous avez les deux fils de Zébédée qui ont eu un super de bonne idée, ils ont aussi entraîné leur mère là-dedans, la mère de Jacques et Jean, et ils sont allés voir Jésus. Ils ont dit, écoute, maître, nous avons quelque chose à te demander. Nous savons que tu es le Fils de Dieu, un jour tu vas être dans ta gloire, tu vas être assis sur son trône, puis vous savez, on aimerait ça que, c'est la mère qui vient voir Jésus, qu'on soit, que mes deux fils qui sont ici, qu'ils soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus, j'imagine que Jésus, il voit à travers justement cette demande, il voit justement l'ambition personnelle de leur cœur. Là, il leur pose des questions, il dit, pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Il parlait justement des souffrances qu'ils allaient endurer. Puis on dit, oui, on est capable. Il dit, oui, c'est vrai, vous allez boire la coupe que je vais boire, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, c'est pas à moi de vous dire cela, c'est justement à ceux à qui cela a été réservé. Mais j'aimerais focaliser ce matin sur la réaction des 10 autres, qui n'ont pas été assez smart, eux autres même, de venir poser la même question et demander la même chose. Et ce que Jésus fait, je trouve ça intéressant, il les appelait, Et pas justement les deux qui étaient là, mais il a appelé les 10. Parce que peut-être les autres, ils étaient un petit peu déçus. Comment se fait-il que nous autres, on n'a pas pensé à ça avant? Fait qu'il les appelle, puis il leur a dit, non, c'est pas comme ça que ça devrait être. Vous devrez être ceux qui servent les autres. C'est pas comme dans ce monde où est-ce que les grands vont tyranniser les plus faibles. Celui qui veut être grand parmi vous, il devrait être votre serviteur. Mais c'est ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'était la réaction des autres. Nous lisons que quand ils ont entendu cela, que Jacques et Jean voulaient justement avoir cette position de faveur auprès de Jésus, la parole de Dieu nous dit que les 10 s'indignèrent. Et je pense que c'était une façon polie, là, je me suis dit qu'ils étaient vraiment enragés, fâchés contre les autres, justement à cause de cette demande qu'ils avaient faite. Et qu'est-ce que cela nous montre? C'est que quand il y a cette ambition personnelle dans une collectivité, ici c'est les 10 disciples, ça peut être aussi dans une église, mais quand il y a des gens qui se focalisent sur eux, qui veulent avoir cette position justement de grandeur et d'être au-dessus des autres, vous allez récolter justement une harmonie qui est brisée. Parce que là, il y a une chicane. Les 10 autres, là, ils ne sont pas contents avec les deux frères. Et pourtant, ce sont les 12 disciples avec Jésus qui marchaient avec lui, qui formaient justement ce groupe avec lui. Et là, vous avez deux qui sont pris justement le devant pour être plus grands et les autres, ils sont fâchés. Et c'est une chose qu'il faut éviter à tout prix dans une église, cette vouloir qui guette ceux qui sont dans une position de leadership, d'être au-dessus des autres. Vous allez briser tout de suite l'unité et l'harmonie qui devraient régner dans une église. Alors, l'ambition personnelle, c'est une réaction charnelle qui peut détruire justement l'unité d'une église. La deuxième chose qui pourrait être aussi très néfaste, et qui est très néfaste, c'est ce qu'on appelle les rivalités. Ce n'est pas de dire que moi, je vais être premier, puis moi, je suis le plus grand, puis le plus smart, puis le plus, parce que j'ai plus de dons que les autres, puis je suis ici en avant, puis vous me voyez apporter la parole. Ce n'est pas ça. C'est quand il y a des gens dans les églises qui voient parmi le leadership, et notre église est propice à cela. Nous n'avons pas un seul pasteur, il y a plusieurs. Mais quand vous avez des gens maintenant qui vont focaliser sur un, « Ah, lui, là, je ne jure que par lui. » C'est mon préféré. Et là, vous avez un autre qui va dire, non, ça c'est mon préféré. Et là, et c'est la même problématique qu'on a dans l'église à Corinthe. Il y a des gens qui sont là. Il y a des leaders qui visitent cette église. Vous avez Paul, vous avez Apollos, vous avez Céphas. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui ont des partis pris. Ah, moi je suis de Paul. Hey, wow, ne jure que par Paul. Lui là, c'est le meilleur. Et l'autre qui disait, non, c'est Apollos. C'est Apollos qui a l'affaire. Et l'autre qui disait, non, moi je suis de Céphas. Et l'autre qui dit, non, vous êtes dans les champs, moi je suis de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, quand il a écrit, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a des disputes, il y a des rivalités parmi vous. Et ça, il y a des divisions, et ça brisait justement l'unité dans l'Église. Alors ce sont les choses, comme j'ai dit, ce n'est pas les personnes elles-mêmes qui se mettent en avant, qui veulent être les premiers, mais qui mettent d'autres et qui s'attachent justement à ces personnes. À aussi éviter. Et la deuxième chose, la discrimination raciale. Pour les Juifs, c'était un problème majeur. Comme j'ai mentionné au début, c'était le peuple élu de Dieu. Abraham, il se fiait sur justement tous les patriarches. Nous avons Abraham pour père et ainsi de suite. Et là, Dieu maintenant, dans sa sagesse, il fait quelque chose tout à fait extraordinaire. Il va dire non. On va faire un seul corps, et à l'intérieur de cela, il n'y aura pas de distinction raciale. Les Israélites, les Juifs, dans les églises, dans le temps de l'apôtre Paul, ils ont eu de la misère avec cela. Et on le voir justement cela surgir, et qui menaçait justement à briser l'unité dans l'église à Jérusalem. Actes chapitre 6, vous avez là une situation classique. Il y a des Juifs qui sont là, qui sont sauvés, mais il y a aussi des Hellénistes. Ce sont justement des gens qui parlaient justement le grec, qui n'étaient pas Juifs de souche, mais qui faisaient partie de l'église de Jérusalem. Et là, il y a des veuves. Et là, il y a la distribution qui faisait justement pour prendre soin des veuves. Et on a la discrimination. Il y a des veuves hellénistes qui sont négligées dans la distribution qu'ils faisaient à chaque jour. Et c'est quoi la réaction dans cette collectivité qui devrait vivre en paix, en harmonie? On lisait que justement les hellénistes murmuraient contre justement les Hébreux à cause de ce qui se faisait. Et vous voyez comment est-ce que cette discrimination raciale menaçait aussi l'unité, l'harmonie, la paix qui devrait régner au sein de cette Église. Alors voilà, et on voit comment les apôtres, dans leur sagesse, ont intervenu tout de suite pour régler la problématique. Mais ça, c'est la situation, comme je dis, il peut y en avoir d'autres. Et cette église ici, église chrétienne de Cap-la-Madeleine, nous ne sommes pas à l'abri à ces choses qui menacent notre unité. Si quelqu'un veut être le plus grand, qui soit le plus petit. Mais ces hommes, et ça c'est un combat, et je veux vous dire que plus que vous êtes en évidence, plus que vous avez une position d'autorité, plus que vous serez attaqué par l'ennemi justement de vouloir vous élever au-dessus des autres. Les apôtres n'étaient pas à l'abri de cela, nous ne le sommes pas non plus. Quand nous avons aussi cette notion que nous sommes supérieurs aux autres, quand nous regardons les autres à cause de leur différence de couleur ou de race, ou quoi que ce soit, leur arrière-plan, leur intelligence, tout ce que vous pouvez voir et nous voulons faire cette distinction, encore une fois, là, il y a une problématique, ça pourrait aussi nuire à l'unité de l'Église. Et quand nous focalisons sur les individus à cause justement le statut ou le charisme, quoi que ce soit, et nous faisons justement des chouchous dans notre esprit, encore une fois, ce sont des problématiques qui pourraient nuire à l'unité d'une église. Et je peux vous dire ici qu'une église qui est caractérisée par ces choses est vouée à l'autodestruction. Deux raisons pour cela. Parce que quand nous ne sommes pas unis, nous sommes justement les garants de l'Évangile. Le Seigneur nous a confié l'Évangile, hein, n'est-ce pas? Dans Matthieu 28, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et très souvent, on se limite justement à l'Évangile de dire aux gens, croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Ça c'est vrai. Mais avez-vous pris le temps de réfléchir sur justement la nature de l'Évangile et le rapport avec la nature de l'Évangile et l'unité qui devrait exister dans une Église? La source de l'Évangile vient de Dieu. Et Dieu, dans son essence, malgré le fait que c'est Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, Dieu, dans son essence, n'est qu'un. Et ce plan de l'Évangile, merveilleux, extraordinaire, de réconcilier des gens avec lui, on voit l'unité justement de Dieu dans l'Évangile. Parce que c'est le Père qui l'a inspiré, ce plan. De sauver l'humanité, justement, c'était le Père. C'est le Fils lui-même qui dit, « Me voici, envoie-moi, je vais accomplir justement ce plan. » Et c'est le Saint-Esprit qui l'applique. Quand il viendra, le Consolateur, il convaincra du monde, du péché, de la justice et du jugement. Et là, dans ce plan merveilleux de l'Évangile, l'unité d'un Dieu, les trois qui travaillent ensemble, transpirent. Et comment se fait-il, ce serait une contradiction incroyable d'aller dans le monde et prêcher un Évangile qui transpire de l'unité d'un Dieu et d'être désunis à l'intérieur. Dieu ne peut pas bénir un tel Évangile. C'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, quand nous prêchons l'Évangile aux gens, ok, nous leur disons, oui, il faut être sauvé, vos péchés, vous êtes devant un Dieu qui est trois fois saint. Mais un résultat de l'Évangile, c'est quoi? C'est que les gens soient réconciliés avec Dieu et aussi former un seul camp, unis les uns avec les autres, mais aussi unis avec Christ. Romains chapitre 6 nous dit ceci, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés dans sa mort. Et maintenant, qu'est-ce que le texte nous dit? Que nous sommes devenus quoi? Une seule plante avec lui. Alors même quand je viens au Seigneur, réconcilier avec un Dieu qui est uni justement dans l'Évangile, mais Dieu aussi me voit uni avec les autres et uni aussi avec Jésus-Christ, un en Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'une église qui est divisée, où est-ce qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'unité, il y a la chicane, il y a toutes sortes de choses qui se passent, pourrait aller justement exhorter les gens pour dire, soyez réconciliés avec Dieu, pour devenir un les uns avec les autres et devenir un avec Jésus-Christ. Encore une fois, ce serait une contradiction vraiment incroyable. Mais ce qui est important ici ce matin et ce qui est encourageant, c'est que la parole de Dieu nous laisse pas à nos propres idées. Comment alors éviter de tomber dans un tel panneau? Comment marcher dans ce monde justement en mettant en pratique la parole de Dieu? Alors Dieu nous donne les réponses. Et si vous avez votre Bible ce matin, je vous demande de trouver l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, parce que c'est là que Paul il va justement adresser cette problématique. Et avant d'y aller, en y allant, je vais vous juste montrer d'autres textes qui nous parlent de cela. Mais Éphésiens chapitre 4, c'est le texte qui est le plus compréhensible, qui nous parle justement de cela. Comment est-ce qu'on peut marcher dans l'unité? Et comment est-ce que nous, les frères et les sœurs, nous devrons aimer cette unité? Alors, avant de regarder Éphésiens chapitre 4, deux textes, l'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens, comme il nous parle ce matin. Il vous exhorte, frères, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Vous voyez, le souci de l'apôtre Paul, c'est que l'Église soit unie. Et encore, il dit aux 2 Corinthiens 13, 11, « Au reste, frères, ayez un même sentiment, vivez en paix. » Mais dans Éphésiens chapitre 4, c'est là que nous allons maintenant. Et c'est ça que je vous allais voir, comment mettre en pratique. J'aime l'unité, oui, c'est vrai, on voit que c'est important. Mais de façon pratique maintenant, qu'est-ce que je fais pour que ça devienne une réalité dans mon église? J'aime mon église, j'aime l'unité. Mais qu'est-ce que moi maintenant, comme individu, je peux faire pour faire partie de la solution et non pas partie de la problématique? Alors, Éphésiens chapitre 4 va nous donner cette réponse. Je vais vous lire le texte, juste 1 à 6. Moi, j'ai 1 à 4 ici, mais après, on reviendra. L'apôtre Paul va dire ceci, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Et le texte clé, c'est le verset 3, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Et voilà. L'apôtre Paul ici, de façon magistrale, il va adresser cette problématique. Il va nous dire qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que nous avons, nos devoirs à faire? Conserver l'unité. L'unité est déjà là, mais c'est à vous et à moi maintenant de travailler à cela pour le conserver. Puis il va nous donner trois façons pratiques, justement, que je peux faire pour que cela devienne une réalité dans mon église, dans ma vie, et aussi que nous puissions avoir cette église qui marche ensemble dans l'unité et dans la paix. Alors, la première chose, et si je vais juste aller un peu plus loin, le verbe « conserver », parce que l'idée que Paul est en train de leur dire, c'est que l'unité existe, c'est là. C'est à vous maintenant de le préserver. Et le mot « conserver » veut dire simplement garder, préserver, maintenir quelqu'un, quelque chose dans l'état où il ou elle est. Et on a un exemple de cela dans Actes chapitre 12, quand l'apôtre Pierre était mis en prison. Et le texte nous dit que Pierre était gardé dans la prison. Alors, on sait que Hérode voulait justement que Pierre reste dans l'état où il était, parce qu'il y avait justement des plans pour Pierre plus tard. Il voulait le décapiter comme il avait fait aussi à Jacques. Alors, la parole de Dieu nous exhorte alors de garder que cette unité que Dieu nous donne, qui nous vient justement par le Saint-Esprit, quand nous sommes sauvés, quand nous sommes dans le corps de Christ, cette collectivité, nous sommes un seul corps, nous sommes un les uns avec les autres. La parole de Dieu nous dit ce matin, travaillez à conserver cette unité. Travaillez à conserver cette unité. Et la première chose, j'aime l'unité, donc je m'efforce à conserver l'unité en marchant dans l'humilité. Et si vous gardez votre texte encore au verset 2, l'apôtre Paul va dire ceci, je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité. Et ça est un élément extrêmement important si nous voulons garder justement l'unité dans l'Église. Je vous ai parlé des personnes qui pouvaient vouloir s'élever, comme Jacques et Jean, qui voulaient avoir cette position au-dessus des autres. L'apôtre Paul dit, si vous mettez ça dans votre Église, vous allez détruire votre Église. Vous êtes dans cette collectivité, vous êtes un en Jésus-Christ, l'unité devrait régner, la paix, l'harmonie. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire cela? Mais soyez humble. Soyez humble. Et la manière de rester humble, c'est de se rappeler. L'apôtre Paul il a pu dire aux Corinthiens, qui est-ce qui te distingue? Et qu'est-ce que tu as reçu, que tu n'es, qu'est-ce que tu as que tu n'es reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Il est en train de le dire, écoute, tout ce que vous avez, ça vient de Dieu. Et vous n'avez pas de raison de vous voir au-dessus des autres. Certes que Dieu va donner peut-être plus de dons à quelques-uns, mais avec le don aussi vient quoi? La responsabilité. Et c'est pourquoi Jacques il va dire aussi qu'il n'y ait pas plusieurs d'entre vous qui se mettent à enseigner. Pourquoi? Parce que quand vous avez cette responsabilité lourde devant Dieu, de parler au peuple de Dieu, de les exhorter, de les édifier et de les consoler, ce n'est pas quelque chose justement à dire, hey, lui, il est toujours devant le spotlight, j'aimerais être comme lui. L'apôtre Pierre va dire ceci, faites attention, Jacques va dire plutôt, parce que vous allez être jugé, quoi, le plus sévèrement. Dieu a donné dans le corps les dons, comme l'Esprit a voulu. Et chacun, vous avez la responsabilité, justement, de dire, c'est ce que j'ai, c'est ce que le Saint-Esprit, dans sa sagesse, m'a donné. Je vais utiliser ça pour la gloire et pour le bien-être de l'ensemble. Mais méfiez-vous de cette tendance. Et moi, je me parle aussi ce matin, de vouloir être, à cause de ce que le Seigneur m'a donné, me placer au-dessus de vous autres. Parce que tout ce que nous avons, ça vient du Seigneur. Et il n'y a personne ici qui a de quoi se glorifier. La seule chose que nous méritons, comme on dit souvent, c'était la mort et l'enfer. Et si le Seigneur nous a sauvés, et si le Seigneur, le Saint-Esprit, nous a équipés de quelque don que ce soit, mais nous devrions être tous devant le Seigneur, prosternés face contre terre pour dire, Seigneur, merci. Merci. Moi, je ne mérite pas cela. Alors, marcher dans l'humilité, et j'ai écrit ici, je me souviens de qui je suis. Et non seulement que je me souviens de qui je suis, mais je me souviens d'où je suis venu. Avant d'être sauvé, qui étais-je? Quelqu'un qui était sur le chemin large, qui s'en allait à la perdition. Et Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, moi, je n'avais rien à faire avec cela, m'a révélé son Fils qui est mort à la croix pour moi. Alors, où est justement l'occasion de me glorifier, de m'élever? Comme l'apôtre Paul a pu dire, je suis ce que je suis, mais par la grâce de Dieu. Alors, conserver l'unité, marcher dans l'humilité. Je me souviens de qui je suis. Deuxième chose, je m'efforce à conserver l'unité de l'esprit dans mon Église, en marchant, comme le texte dit ceci, en toute humilité, mais aussi en douceur. Et dans l'original, le mot douceur veut dire soumission. Quelqu'un qui est doux, ça veut être quelqu'un qui aussi est apte à être soumis aux autorités, soumis justement à toutes sortes de choses. Et je vais vous expliquer ce que le Seigneur a fait de lien. Quand il va parler à ses disciples dans Matthieu chapitre 11, il va leur dire, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Un joug, justement, parle justement des bœufs qui étaient attelés ensemble et qui travaillaient justement pour le maître. Il y avait cette idée d'être soumis, justement, un joug. Souvent, on dit quelqu'un qui est sous le joug de quelqu'un d'autre quand on parle justement des personnes qui sont au-dessus. Et après, il va dire, car je suis doux et je suis humble de cœur. Et le Seigneur, c'était l'exemple par excellence de cette douceur. Et ça, c'est aussi une chose qui menace des assemblées. De ne pas être doux et être soumis. Et dans le contexte ici, c'est d'être soumis à l'autorité spirituelle. Dieu a mis dans les églises des hommes qui sont en autorité spirituelle. Et Hébreux 13, 17 nous demande « Obéissez à vos conducteurs ». Et pour être obéissant, ça prend la soumission. Et vous voulez voir une église qui va justement aller à la perdition dans le sens que cette église va, ne va pas remplir la fonction pour laquelle Dieu les a l'a fondée, cette église, ou est-ce qu'il y a l'insoumission à l'autorité spirituelle. Des fois, les gens disent, mais écoute, je ne suis pas d'accord avec ce que les leaders font. Mais vous savez que le Seigneur a traité très sévèrement dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui se sont révoltés contre Moïse, les révoltes de Corée dans le désert. Et vous voyez comment est-ce que le Seigneur a justement puni ces gens. Il ne veut pas dire qu'il va faire la même chose. Mais le principe est là. Qu'importe où vous êtes, dans n'importe quelle église, c'est toujours le même principe, vous devrez en être soumis à l'autorité spirituelle. Parce que l'autorité spirituelle a été mise en place par Jésus. Et c'est là que le Seigneur, ces hommes, ils vont rendre compte, et je parle de moi-même aussi, à rendre compte au Seigneur. Pour justement la façon dont ils ont dirigé l'église. Et si vous êtes dans une église et vous dites, moi, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas faire ça. Il y a les gens qui vont dire, OK, je vais aller ailleurs. Mais même si vous allez ailleurs, qu'est-ce qui va être la même chose? C'est d'être soumis à l'autorité qui est en place. Et la pire des choses pour une église, c'est d'avoir des peuples qui se rebellent contre l'autorité. Et ça, ça va détruire l'unité qui est dans une église. Alors, on demande d'être l'apôtre Paul, de marcher dans la douceur. Et troisièmement, je marche dans la conserver l'unité de l'esprit en marchant dans l'amour. Et on a vu cela la semaine dernière. Je ne reviendrai pas là-dessus en détail, mais le texte nous dit, c'est intéressant, vous supportant les uns les autres avec amour. Et là, j'ai mis deux porc-épics, deux hérissons. Et vous savez pourquoi? Parce que on n'est pas tous pareils. Et comme je dis la semaine dernière, à un moment donné, je vais faire quelque chose, puis ça va te piquer, ça va t'irriter. Et tu vas faire la même chose aussi, puis ça va me piquer aussi, ça va m'irriter. Mais ensemble, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait donné cette illustration, deux hérissons qui étaient pris d'or pendant la nuit où il faisait très, très froid. Et là, ils essayent de se coller, puis ah, ça faisait mal, et ils s'éloignaient. Mais quand ils s'éloignaient, ils trouvaient que il y avait froid, fait qu'ils se collaient ensemble, puis ça piquait encore, puis ils s'éloignaient. Puis finalement, ils ont décidé de se coller puis endurer justement des petites piqûres les uns les autres parce qu'il y avait une chaleur qui se dégageait puis se réchauffait les uns les autres. Mais l'image est pareille. On est dans un corps ici, c'est sûr qu'on n'est pas pareil. Mais le texte dit de nous supporter. Nous supporter les uns les autres avec amour parce qu'ensemble, c'est ça justement la force et la puissance d'une église quand nous sommes unis. Et quelqu'un a bien dit, je supporte les faiblesses de mes frères et mes sœurs. Appuie-toi sur les forces de chacun et pardonne justement les faiblesses des autres. Alors, voilà la recette. La recette pour justement avoir une église qui est unie, qui marche dans la paix, qui marche dans l'unité. Je marche dans l'humilité, je marche dans la douceur, je marche dans l'amour. Je me souviens de qui je suis. Je me soumets justement aux autorités. Et je supporte les faiblesses de mes frères et mes sœurs. Et j'apprécie aussi leur force. Et je vais juste terminer avec deux choses. Les églises qui, justement, ont des problématiques avec ça, parce que le Seigneur est vraiment extraordinaire dans ça. Il nous a donné, mes frères et mes sœurs, un projet extraordinaire. C'est l'évangélisation. Et comme vous le savez, il n'y a rien de plus unificateur d'avoir un ennemi commun. C'est vrai, hein? On peut avoir toutes sortes de différences, mais le moment qu'un ennemi commun se pointe dans un groupe, mais qu'est-ce qui arrive? On oublie nos différences, puis là, on focalise justement sur l'ennemi commun. Et nous avons un combat à mener. Nous avons des âmes qui périssent autour de nous. Nous avons un combat à mener contre le diable et ses acolytes, les démons. Et le Seigneur nous a donné à son Église, à son corps, dans la collectivité, justement, ce projet extraordinaire d'être unis autour de la proclamation de l'Évangile. On n'a pas le temps, justement, quand on est engagé, de penser à, ah, je vais être le plus grand, puis. Non, 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 vous avez un ennemi commun, c'est un beau projet, allez de l'avant avec cela. Et c'est ce que l'apôtre Paul y a dit aux Philippiens. Il dit que je sois, que je viens vous voir, ou que je reste absent, que j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Ah, est-ce pas merveilleux que si cela pourrait caractériser l'assemblée chrétienne de Cap-de-Madeleine, d'avoir cette même âme, ce même esprit, parce qu'on combat ensemble pour la foi de l'Évangile. Et la Bible nous dit que quand on est unis et on marche dans l'harmonie, quand les frères et les sœurs disent « Moi, j'aime la paix », il y a des choses extraordinaires que Dieu fait aussi dans une église. Psaume 133 nous dit ceci, « Voici, il est bon, il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. » Ça, c'est la version Darby. « Habiter unis ensemble. » Et là, il donne deux métaphores. C'est comme l'huile à meilleur qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Et c'est comme la rosée. Et là, dans ce texte ici, vous avez deux images. L'huile, c'était l'huile d'onction qu'on répandait sur la tête du souverain sacrificateur. Et dans la parole de Dieu, l'huile, c'est toujours une image du Saint-Esprit. Mais ce qui est important ici, c'est que l'huile ne reste pas sur la tête. Ça dégouline, puis ça s'en va jusqu'au bord de ses vêtements. Et je ne veux pas spiritualiser le texte, mais je vois une application pratique. Quand vous avez un leadership qui est rempli du Saint-Esprit, et là vous avez justement cette unité à cause du Saint-Esprit qui est là dans le leadership, mais ça déteint justement sur les membres dans une église. Vous ne pouvez pas avoir une église qui marche dans l'unité, qui marche dans la paix, si le leadership n'est pas uni. Et l'image est là, vous avez le souverain sacrificateur, sa tête, justement, loin de l'huile, mais ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et c'est ça qu'il faut avoir dans cette église. Vous devrez prier aussi pour cela. Une leadership qui est unie par le Saint-Esprit, vous allez avoir aussi une assemblée qui est unie, qui marche dans l'unité. Et la deuxième chose, c'est la rosée. Vous savez, la rosée, c'est qu'il y a des conditions qui sont nécessaires pour que la rosée se forme. Je ne vous donne pas un cours de science ce matin. Mais une chose en ce qui concerne la rosée, c'est que la rosée n'aime pas la chaleur. Le moment que la chaleur du jour, le soleil se lève, mais la rosée se dissipe. Et quand vous avez la chicane dans les assemblées, quand vous avez des divisions, quand vous avez des rivalités, quand vous avez des disputes, vous ne pouvez pas avoir justement cette rosée rafraîchissante de l'Esprit-Saint dans les églises. Et là, le Seigneur a dit quelque chose dans le psaume 133 que je trouve très intéressant. Il dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et je vois ici que le Seigneur, quand il voit son Église dans la collectivité, unie, dans la paix, le Seigneur se plaît justement à mettre sa bonne main sur ce groupe-là et les bénir de façon extraordinaire. Et faire des choses, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais si le Saint-Esprit n'est pas là, si la puissance de l'Esprit n'est pas là pour assister, mais là, ce serait des efforts dans la chair. Et je termine avec ce texte ici. L'Église, il y avait une Église, Actes chapitre 9 au verset 31, qui justement se jouissait de cette bénédiction du Seigneur. Et je trouve ça extraordinaire. L'Église était en paix. Vous voyez l'unité? Ça, c'est justement la preuve que cette Église marchait dans l'unité, était en paix, marchant dans la crainte du Seigneur, marchant dans l'humilité, marchant aussi dans la douceur, marchant aussi dans l'amour. et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Dieu a mis sa main sur cette église et dit, voilà une église que je peux bénir parce que vous marchez dans l'unité. Et ça, c'est notre défi pour nous ici, au Cap de Madeleine, d'avoir une église que dit, j'aime mon église, alors j'aime l'unité. Et devant le Seigneur, je vais faire tout ce que je peux faire moi-même, de contribuer à cette unité, de contribuer à cette harmonie, de contribuer à cette paix, pour que le Seigneur puisse ensemble nous bénir. Quel grand sauveur, hein, merveilleux que nous possédons. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va avoir le troisième message dans cette série. J'aime l'Église, donc j'aime mon frère, j'aime mes frères et les sœurs. J'aime mon Église, donc j'aime l'unité. Et troisièmement, on va aller plus loin maintenant. J'aime mon Église, donc j'aime servir. Et chacun de vous ici ce matin, si vous connaissez le Christ, vous avez un don extraordinaire que le Seigneur vous a donné. Et par l'assistance du Saint-Esprit, il vous demande de le mettre en pratique pour l'Église. Pour l'Église et pour sa gloire. On va prier. Seigneur, ce matin, on te bénit parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui a pensé à cette Église merveilleuse qu'un jour tu vas te présenter devant toi sans rides, sans tâches, rien de semblable. En attendant, Seigneur, aide-nous d'être de ceux qui travaillent avec toi. Tu as promis de bâtir ton Église. Et nous voudrons être, Seigneur, d'être parmi ceux qui sont couvrés avec toi pour cette construction. Seigneur, tu nous as parlé ce matin, parle nos cœurs, donne-nous d'être de ceux qui, oui, cherchent la paix, cherchent l'unité, qui marchent la main dans la main, unis ensemble, Seigneur, se supportant les uns les autres, marchant dans la douceur, Seigneur, marchant dans l'humilité, afin que ton Église puisse être unie et puisse prospérer. Seigneur, nous continuons aussi à prier que nous savons que tu vas ajouter des membres à ton Église. Et si parmi nous ce matin, il y a quelques-uns qui ne te connaissent pas, ô Seigneur, dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta douceur, Seigneur, que tu puisses révéler à ces personnes, afin qu'ils puissent venir et faire partie de cette grande Église que tu aimes, que tu es en train de bâtir et que tu vas aussi bénir. C'est par nous avec ta bénédiction, nous demandons au nom de Jésus. Amen.